Avant tout, ce que j'aime bien moi, en général, c'est que je te demanderais de te présenter. Peut-être juste simplement dire ton nom, ton prénom, comment tu pourrais te définir en deux mots. Et puis pourquoi tu es là. Comme ça, ça a fait une petite introduction dynamique. Et puis après, j'enchaînerai sur mes questions.
Voilà, je te laisse la parole.
Éric Baudelaire, actuellement au FIDM, au Festival du FIDM Marseille, en tant que jury. Et j'ai présenté des films au FID l'année dernière, un film qui s'appelait Les Lettres à Max, et en 2011, un film qui s'appelait L'Anabase de Mei et Fusako Shigenobu, Masao Adachi et 27 années sans images.
Merci, bah, tout à fait. J'allais citer ces deux films qui ont été effectivement présentés au FID Marseille, et surtout, je crois que c'est ici qu'ils ont été montrés pour la première fois, donc au FID. Pour commencer, ces deux films parlent de géopolitique, sans jamais vraiment en expliquer le contexte, mais plutôt en captant des témoignages très humains, philosophiques, poétiques, visuels. Peux-tu expliquer ta démarche ?
Alors, la question d'une démarche, c'est compliqué ça comme question au cinéma. On va dire que pour ces deux films-là, il y a eu un intérêt pour des histoires. Bien avant qu'il y ait une forme. Ça veut dire que, on va parler par exemple de l'Anabase, qui est un film au sujet de l'armée rouge japonaise, un groupuscule qui est issu de l'extrême gauche japonaise, qui a consacré quelques décennies à la lutte armée en solidarité avec le peuple palestinien, donc en quitté le Japon des années 60 pour s'installer au Liban. Et militer à partir de Beyrouth. Donc je viens à l'origine des sciences sociales, donc souvent je fais des recherches, je cherche des archives, je regarde des documents, j'essaie de rencontrer des gens, je discute, et puis à partir de tout ça se définit une histoire. Et puis je cherche à trouver les moyens visuels ou des moyens conceptuels, souvent pour mettre en forme cette histoire. Donc ça donne lieu à différentes solutions formelles. Dans le deuxième film, Les Lettres à Max, qui est un film qui parle un petit peu qui parle de plusieurs choses, mais notamment de mon amitié avec un homme qui s'appelle Maxime Gvingia et qui a été ministre des Affaires étrangères d'un pays qui s'appelle l'Abkhazie, et donc qui est un pays qui n'est pas reconnu, en tout cas officiellement, par différentes capitales européennes, et donc qui existe dans un état un peu particulier, une espèce de non-état, un état non-état, un état qui a une existence physique, un territoire, des frontières, des institutions, mais qui n'a pas d'existence juridique, puisque l'existence d'un état dépend de la reconnaissance des autres. Et donc voilà, il se trouve que j'ai rencontré Maxime il y a une quinzaine d'années quand moi j'étais jeune photographe et lui était jeune diplomate, et qu'entre-temps Maxime est devenu, il a grimpé les échelons de son ministère afin de devenir ministre. Et donc voilà, le film se déploie, parce que pour me poser la question de la démarche, le film se déploie autour d'une correspondance que j'ai avec Maxime, où je lui ai envoyé des lettres, il a reçu ses lettres, il y a répondu en enregistrant sa voix, et ça c'est devenu ça allait devenir la base d'une voix off pour le film qu'on ferait ensemble.
Est-ce que l'idée de cet échange de lettres avec Max, c'est une idée que tu as eue? Est-ce que c'était quelque chose de volontaire, sachant que évidemment dans le film précédent, dans l'Anabase, déjà on aperçoit les mails que tu échanges avec Masao Adachi qui apparaissent en plus à l'écran. Ça c'est un vrai choix dans ton écriture cinématographique, de faire apparaître ces échanges à l'écran. Donc comment est venue cette envie de correspondre et de faire apparaître ces correspondances dans le récit?
Il y a plein de manières de faire des films sur le réel, mais quoi qu'il arrive, un film sur le réel est issu d'un dispositif de fabrication. C'est une relation entre le réalisateur, le sujet et le mode de... la nature de cet échange, la nature de la captation, toutes ces choses-là sont issues d'un système de fabrication. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce système à l'intérieur du film. C'est-à-dire que la relation entre le sujet du film et l'auteur du film soit un des sujets du film. Qu'on comprenne un petit peu structurellement comment fonctionne cette relation. Donc souvent, il y a des, dans les deux films dont on parle, les correspondances, les lettres ont été utilisées sur la surface du film parce que c'est une manière de donner des clés sur la nature de la relation qu'on entretient, c'est-à-dire la nature de la transaction. C'est-à-dire que moi, je demande à Masao Adachi de me raconter une partie de son histoire. Lui accepte de me rencontrer pour qu'on en parle, mais il me demande quelque chose en échange. Et donc, voilà, il me demande de tourner des images pour lui au Liban, parce que lui ne peut plus quitter le territoire japonais, parce qu'il est interdit de passeport, donc il ne peut plus partir. Il est prisonnier dans son pays, on va dire. Et donc, pour rendre compte de l'aspect, enfin, de la nature transactionnelle du le deal, le pacte qu'on a conclu pour faire le film, ça m'intéresse, parce que je pense que tout film est une forme d'échange, et la nature de cet échange peut être intéressante, parce qu'elle va évidemment informer la manière dont le film est construit, la manière dont le film, ce que raconte le film. Et dans les lettres à Max, bon, le titre le dit très bien, ce sont des lettres que j'envoie à Max, des lettres qui n'auraient a priori pas dû arriver, parce que rien ne... Enfin, a priori, une lettre qu'on envoie de Paris vers un pays que la France ne reconnaît pas n'était pas forcément destinée à arriver à son destinataire. Au départ, je pensais simplement que ces lettres, ce serait comme une espèce de processus un peu néo-conceptuel où voilà, la lettre reviendrait à l'atelier, il y aurait une espèce de tampon dessus de la poste qui dirait « ce pays n'existe pas ». Moi, ce qui m'intéressait au tout départ, c'était de voir la gueule du tampon, c'est-à-dire voir que va nous dire l'administration de la poste par rapport à l'Abkhazie. Le fait que les lettres soient arrivées jusqu'à Max a permis, d'une part, ça a fait foirer mon idée de départ, il n'y avait pas de tampon. Mais du coup, ça a donné l'occasion de faire autre chose. Et donc, voilà, les lettres sont l'ossature du film. Mais en fin de compte, c'est un interview. C'est juste un interview épistolaire.
Tu parlais tout à l'heure des sources, des archives, des photos que tu utilises dans ton travail. Moi, je me suis questionnée un petit peu parce que dans l'anabase, on parle beaucoup d'absence aussi d'images. On parle d'absence de souvenirs, de destruction de ces traces, puisque May témoigne de cette disparition d'archives de sa jeunesse pour pouvoir rester anonyme et vivre caché. Le titre d'ailleurs en fait mention, puisqu'on parle de 27 années sans images. Moi, je me suis demandé si de ce fait, vous faisiez des films pour fabriquer ces images et pour combler l'absence ou la disparition de certaines de ces images.
Certainement, l'absence d'images est intéressante parce que j'ai le contre-pied de faire un film avec des images d'archives. Après, je suis passionné de films d'archives. J'aime énormément regarder Le fond de la raie rouge de Chris Marker ou le travail d'exploitation de l'archive, ça m'intéresse beaucoup. C'est ce que je faisais avant quand je travaillais dans des laboratoires de recherche sur des thématiques historiques. Voilà, j'ai fait tout un travail sur les archives de la crise des missiles de Cuba, etc. Mais à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser plus précisément à la question du cinéma, j'ai décidé de ne pas utiliser d'archives, de ne pas faire de films qui s'appuie sur la reconstitution d'images d'archives. Je me suis plutôt posé la question de savoir quel genre de film on peut faire là où les images manquent, là où il n'y a pas d'images. Et par ailleurs, ce qui est le cas pour les deux sujets dont on parle, en tout cas pour ces deux films, des sujets pour lesquels il y a très peu d'archives, point final, pas juste des images. Il y a très peu de documents, il y a très peu de... L'armée rouge japonaise a vécu dans la clandestinité pendant 30 ans, n'a quasiment pas laissé de traces. Il y a très peu de choses, à part quelques rapports qu'on retrouve de la CIA ou de certains services de renseignement qui sont caviardés, dont on n'arrive plus à lire la plupart du rapport, parce que c'est tout censuré. Donc voilà, il y a très peu de choses. Il y a des témoignages. Les témoignages ne sont pas fiables. Le témoignage, c'est un survivant qui raconte sa survivance, ou c'est un clandestin qui raconte sa clandestinité. Donc on va dire que c'est par excellence des récits lacunaires. Et donc voilà, la question que pose le film, enfin une des questions qui s'est posée au moment de la fabrication du film, c'est comment combler ces lacunes, d'une part avec le récit et d'autre part avec des images, parce que voilà, le cinéma c'est quand même une question d'images. Et l'Abkhazie, c'est un petit peu la même problématique, mais on va dire qu'elle est... C'est pas tant qu'il n'y a pas d'images d'Abkhazie, il y en a. Il y en a dans la presse de temps en temps, même si ce n'est pas un sujet qui passionne les rédactions. C'est quand même... voilà, il y a des images, c'est possible d'aller en faire. Mais c'est plutôt la question qui se pose, c'est ce que ces images vont révéler. C'est une question de représentation. C'est-à-dire, est-ce que photographier ce territoire suffit à en faire une représentation visuelle? Est-ce que ça lui confère du réel? C'est-à-dire, est-ce que montrer cette république... autoproclamée, quel est le rapport entre les images représentant cette république autoproclamée et les gens qui l'animent, et leur accès vers le réel. Donc c'est plutôt ça la question qui m'a intéressé. Parce que de toutes les façons, tout ce qui consiste à créer un pays, à créer une nation, un État, relève aussi d'un rapport entre le réel et la fiction. La fiction dans un sens très... une fiction collective qui définit tous les États. La décision de s'identifier collectivement comme faisant partie de cette nation, c'est par définition déjà un geste qui relève plutôt de la fiction, enfin une croyance commune en une fiction commune, voilà. Et donc voilà, tout ça, c'est la trame à partir de laquelle les questions de réalisation du film se sont présentées.
Donc pour juste terminer sur ces images, donc tu es aussi photographe. Tu es artiste et cinéaste, en tout cas c'est comme ça que tu es présenté dans le catalogue du FID. Et c'est vrai que tu exposes dans des centres d'art, dans des galeries, tu es invité dans des festivals de cinéma. Est-ce que tu travailles différemment en fonction des lieux d'exposition, ou est-ce que pour toi finalement ces canaux de diffusion ont peu d'importance, en tout cas la différence entre ces différentes façons de montrer ton travail?
Je pense que ça dépend moins du lieu de diffusion que de la question qui est posée, ou plutôt du sujet qui m'intéresse. C'est-à-dire que souvent, le point de départ de tous ces différents travaux, c'est une histoire. C'est une histoire humaine, une histoire politique, un événement historique, ou bien une anecdote politique actuelle, mais c'est forcément quelque chose qui est issu, enfin ça a été toujours quelque chose qui est issu d'une observation, d'une recherche. Ça peut être l'histoire très particulière de la censure au Japon, ou bien le cinéma non réalisé d'Antonioni. Enfin, c'est souvent des histoires comme ça qui finissent par m'intéresser pour des raisons que pas sûr de nécessairement pouvoir verbaliser, c'est juste des choses qui m'intéressent. Après, la question, c'est de savoir quelle forme donner à cette recherche. Souvent, la forme cinématographique s'impose parce que c'est des récits compliqués, c'est des concepts particuliers auxquels il faut donner du temps pour les déplier. L'histoire d'un pays qui n'est pas reconnu, c'est à la fois quelque chose de très simple et quelque chose de très complexe. L'histoire de l'armée rouge japonaise et le néant d'archives qui l'entoure, c'est forcément quelque chose d'un peu compliqué. Donc là, ça finit par se solder par des histoires de cinéma. Comme ça, j'ai une heure et demie de temps pour déplier cette histoire-là. Mais parfois, c'est des sujets qui peuvent éventuellement se contenir dans un geste très simple. Ça peut être trois morceaux de papier et une correspondance que j'entretiens avec les anciens premiers ministres d'Angleterre, par exemple. Donc c'est une pièce qui se décline en 10 lettres. Des lettres que je leur ai envoyées et leurs réponses. Ou bien ça peut être des assemblages de photographies trouvées ou des sérigraphies. Enfin, le principe d'ouvrir une réflexion ou une béance narrative autour d'une histoire, si ça peut se faire avec un geste plastique, enfin, en tout cas un objet, alors ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis un grand adepte du travail d'un artiste comme Robert Filliou, par exemple, qui est quelqu'un dont je me délecte à regarder son catalogue raisonné, parce que ce sont souvent des très grandes idées qui sont contenues dans des gestes extrêmement pauvres, extrêmement simples. Et donc voilà, moi j'ai envie de dire que je ne me réclame pas forcément cinéaste, dans le sens où s'il y a d'autres solutions qui peuvent être faites avec un bout de papier, un crayon, ou bien deux images mises dans un cadre, ça me paraît tout aussi satisfaisant, économe, et parfois, dans le cas des pièces de Filliou, ça peut être tout à fait fulgurant, par exemple. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment une question du... Je crois que le point de départ, c'est vraiment l'histoire.
Très bien, merci. J'avais une dernière question, puisque tu as répondu à nombreuses des questions que j'avais en tête. J'ai lu dans le journal du FID, dans le journal numéro 1, que tu avais des ancêtres, enfin c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas un grand-père photographe à Marseille. Et puis j'ai tout de suite fait le lien avec la Nabase, qui est un retour en fait. Est-ce que comment tu vis cette présence à Marseille? C'est un retour puisque tu es déjà venu, parce qu'il y a des racines qui sont un peu là, des racines photographiques. Comment tu vis ton séjour au festival et ton séjour en tant que jury du FID?
Alors, ce n'était pas mon grand-père qui était à Marseille, c'était le frère de mon grand-père. Il s'appelait Marcel Baudelaire, qui était artisan photographe, qui tenait une boutique sur le Vieux-Port qui s'appelait Photosport. Et il faisait les portraits de famille, il faisait les portraits de mariage, il faisait aussi de temps en temps le paparazzi quand les paquebots arrivaient et qu'il y avait la reine d'Angleterre à bord, ou bien Charlie Chaplin qui débarquait à Marseille, il était là pour faire la photo. Il a été aussi un petit peu photographe de plateau pour Pagnol. C'était à l'époque où, voilà, être artisan photographe, ça veut dire qu'on faisait un peu de tout. Il faisait un tout petit peu d'actualité. Il a fait un livre sur les bordels à Marseille. Et puis c'était un peu une institution, une partie de la mémoire visuelle de Marseille. Je crois que, enfin, il a travaillé dans cette ville pendant près de 40 ou 50 ans. Et moi, je venais parfois lui rendre visite, il me montrait son atelier, il me montrait la chambre noire, il me montrait les négatifs sur des plaques de verre qui étaient plus anciennes, et puis ses archives récentes. Mais même avant Marcel, j'avais un arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Auguste Baudelaire, qui a commencé peintre et qui a fini portraitiste aussi, qui a photographié aussi la ville de Strasbourg après la guerre de 1871, Strasbourg en ruine. On a pu s'apercevoir, en fait, depuis plusieurs générations dans la famille, il y a une alternance entre des photographes ou des peintres photographes, dans le cas d'Auguste, et des militaires. Donc, en fait, c'était des artistes qui enfantaient des militaires, qui enfantaient des artistes, qui enfantaient des militaires. Donc, voilà, moi, quitte à choisir entre les deux corps de métier, j'ai préféré ne pas être militaire.
Très bien, donc c'est une histoire de famille finalement, l'intérêt pour les archives, leur fabrication et puis et la photographie. Merci Éric Baudelaire, et nous aurons donc la chance de pouvoir vous rencontrer à la séance donc organisée à Nantes au lieu unique le 29 septembre à 20h30 pour la projection de Letters to Max. Merci beaucoup.